BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos, les pros des cryptos, à domicile, chaque vendredi. Bienvenue à tous, et nos NFT à nous, nos talents non fongibles, sont présents et répondent à notre appel. On les accueille, on va parcourir avec eux l'ensemble de l'actualité. Claire Balva, experte crypto, elle représente ici The Block, qui vient d'ailleurs de réaliser une grosse levée de fonds. Bonjour Claire et bienvenue.
Bonjour.
Thibaut Boutroux aussi nous accompagne cette semaine, directeur des opérations de Meria. Bonjour Thibaut. En plus, c'est très sympa de venir nous voir puisqu'il vient de Moselle. Bonjour Thibaut et bienvenue également. Dans un instant, on va parcourir ensemble les headlines de la semaine, les actualités qui ont fait cette semaine crypto. Elle a été riche. Paris était d'ailleurs cette semaine la capitale du monde crypto. On en parlera. Mais d'abord, le potentiel sur le Bitcoin et l'Ether. Vincent Gann est avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Oh, les cours de l'or, Vincent, les cours de l'or, vous les avez vus. 2400 dollars. L'argent aussi, effectivement, l'argent est sur un plus haut de 10 ans, l'or sur un plus haut historique, ça monte. Il bénéficie, ces deux métaux précieux, d'une prime de risque géopolitique et de la désinflation américaine un peu plus lente que prévu. Est-ce que le Bitcoin aussi en profite ?
Oui, vous avez bien résumé les faits pour les auditeurs, les téléspectateurs. L'or enchaîne de nouveaux records historiques. Alors, on aimerait bien que ce soit Bitcoin qui le fasse, mais rassurez-vous, il le fera plus tard. Mais donc, l'or enchaîne les nouveaux records historiques. L'argent, alors le cours de l'argent métal, pas l'argent, les billets, l'argent métal s'est aligné à la hausse aussi depuis la fin du mois de mars. Des métaux précieux, alors c'est assez inhabituel, qui sont parvenus à se montrer assez étanches, à la fois à la remontée des taux d'intérêt du marché depuis le début de l'année, aussi cette semaine, et à la remontée du dollar américain, tout simplement parce que, vous avez utilisé le terme parfait, il bénéficie d'une prime de risque géopolitique, ça c'est le terme un peu financiero-financier pour faire intelligent, mais concrètement il bénéficie d'une addition de valeur en lien avec le degré de risque politique et géopolitique. Bon, vous en parlez aussi régulièrement sur votre antenne. Et effectivement, il peut y avoir aussi un rôle de hedge, de couverture contre une désinflation US qui est plus lente que prévu, sachant qu'en Europe, elle est vaincue. Alors, Bitcoin dans tout ça. Déjà, quelques faits là aussi. Si Bitcoin là n'enchaîne pas encore les nouveaux records historiques, rappelons qu'il a quand même eu une hausse verticale entre fin janvier et la mi-mars. Il gagne encore 60% depuis le début de l'année. Et au final, là, il est à 70 000 et quelques dollars. Il se maintient même un chouïa au-dessus de son ancien record historique, les fameux 69 000 dollars. Alors, Bitcoin dans tout ça, quelques remarques. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu un long débat de savoir en fait qu'est-ce que c'est Bitcoin. Est-ce que c'est un actif risqué? Est-ce que c'est un security? Est-ce que c'est une matière première? Bitcoin est catégorisé dans la catégorie des commodities. Bon, c'est pas une matière première qu'on extrait de manière physique comme l'or et l'argent, mais d'un point de vue financier, Bitcoin c'est dans la catégorie des commodities. Ça c'est le premier point. Alors, je continue. Deuxième point important, et là aussi on en a beaucoup parlé, le développement de l'offre ETF.
On est toujours là, hein, vous oubliez pas Vincent, on est encore là, hein, on vous écoute.
Oui, oui.
Oui, d'accord.
Oui, oui.
Ah, d'accord.
Le développement de l'offre ETF sur le BTC, qui fait qu'au final, de plus en plus de personnes défendent l'idée que Bitcoin serait le gold numérique, l'or numérique. Ah. Alors, in fine, je pense pas que Bitcoin bénéficie d'une prime de risque géopolitique au même titre que l'or et l'argent, mais il y a un effet quand même partiel qui joue. Après, Bitcoin reste quand même un actif risqué. Il suffit de comparer les statistiques de volatilité pour voir la différence entre l'or et le BTC. Donc, il est dans un entre-deux.
Et du coup, quel potentiel? Parce qu'on voit le Bitcoin effectivement rôder, zoné en quelque sorte sous son récent record. On est à peu près 70 000 dollars là en ce moment. Quelle est votre vue sur le potentiel à court terme du Bitcoin?
Oui, alors là, je vais essayer d'être rapide. Écoutez, là aussi, c'est pas surprenant. Le marché, il s'est présenté mi-mars à son ancien record historique, largement en avance sur son cycle monétaire habituel. D'ailleurs, le halving du BTC, le quatrième halving, c'est la semaine prochaine, c'est samedi prochain. Statistiquement, il est toujours à cette période-là dans une phase volatile, au mieux un trading range, au pire une correction. Là, il arrive à se maintenir tout en haut de manière latérale, c'est une bonne chose. Il y a un pivot à retenir, un pivot technique, qui est le niveau des 69 000 dollars. Voilà, si on arrive à le tenir, c'est bien, on s'y maintient et on pourrait envisager d'aller chercher 74, 77. Il y a quand même un risque, et c'est la clôture quotidienne qui le dira, mais briser 69, pour moi, c'est revenir chercher 60, 62, et là, ce sera une vraie opportunité pour les retardataires, ceux qui n'y sont pas, pour se placer et viser 100 000. Ça, c'est ma cible pour Noël. Voilà. J'ai terminé.
Merci beaucoup, Vincent. Toujours très précis, mais ça a beaucoup de valeur. Vincent Gann, qui nous accompagne régulièrement, effectivement, analyste technique indépendant. Alors, ces seuils techniques, vous repérez sur Bitcoin, ce ne sont pas des conseils, c'est juste la vue technique, vos radars techniques qui parlent à travers vos interventions régulières dans cette émission. Les pros des cryptos, on va parler aussi d'Ether. Oui, les ETF, Ethereum, sont-ils déjà condamnés? Ils seront probablement, ces ETF, rejetés. C'est le point de vue du patron de Vanek. Leur qualification en valeur mobilière pourrait poser de sérieux problèmes. On va en parler dans un instant. La finance décentralisée, elle est dans le collimateur des régulateurs, en tout cas de la SEC. La SEC a lancé un avertissement à Uniswap. Détail à suivre, quels impacts potentiels. Et puis la déclaration de revenus. Elle arrive, vous inquiétez pas, elle arrive. Si vous l'attendez avec impatience, elle arrive. Et pour vous, investisseurs en crypto, énormément de questions qui se posent. Comment déclarer au mieux vos cryptos? Nos experts nous apporteront leurs clés. Votre machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche. C'est parti, on vous accompagne pour une grosse vingtaine de minutes.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec Claire Balva. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Et Thibaut Boutrou. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes venu exprès pour nous ou vous étiez déjà
là? Non, j'étais là toute la semaine. Oh. Désolé.
On a nos désirs pour la réalité. Thibaut Boutrou qui nous accompagne lui aussi très très régulièrement. Merci à tous les deux de répondre si souvent à l'appel des pros des cryptos. Les ETF Ethereum, faut quand même qu'on continue d'en parler. Hein. On les attend toujours. Seront-ils rejetés? C'est probable. Tel est l'avis en tout cas cette semaine du patron de Vanek. Il semble désormais, le patron de Vanek, très pessimiste. Est-ce qu'en effet, la récente classification claire d'Ethereum comme valeur mobilière par la SEC, est-ce que cette classification limite la probabilité d'un feu vert pour les ETF?
Oui, alors... De ma compréhension, il n'y a pas une classification très claire de l'Ether en valeur mobilière. Il y a plutôt une ambiguïté, puisqu'on a de l'autre côté une autre autorité, la CFTC, qui veut classifier l'Ether plutôt comme commodity, donc comme marchandise. Et finalement, c'est cette ambiguïté qui fait que c'est difficile pour les ETF Ethereum d'être approuvés. Alors, encore une fois, on ne sait toujours pas. On devrait avoir les premières décisions fin mai pour Vanek et ARK 21 Shares. Et a priori, quand on entend les patrons de ces deux potentiels ETF, on peut être pessimiste. Il y avait Cathie Wood, notamment, qui avait donné une interview à The Big Whale et qui disait qu'elle pensait a priori que les ETF Ethereum n'allaient pas être approuvés. Là, on a eu la parole du patron de Vanek, qui est lui aussi pessimiste. On peut imaginer que ces deux personnes ont quand même des échanges avec la SEC. Donc oui, on s'attend plutôt à des mauvaises nouvelles fin mai.
Mais en mars, le patron de BlackRock lui disait qu'il était encore optimiste. C'était en mars. Bon. C'est pas la même saison.
Depuis, il y a quand même eu d'autres nouvelles, puisque la SEC a commencé des sortes d'interviews ou d'enquêtes auprès de personnes qui étaient proches de la fondation Ethereum pour essayer d'avoir le maximum d'informations, a priori, pour classifier l'Ether dans les securities.
Est-ce que l'avenir d'Ethereum sera du coup moins brillant, moins prometteur si les ETF Ethereum ne sont pas validés, Thibaut?
En fait, ça dépend, on parle de quoi quand on parle d'Ethereum. Si on parle du protocole technique Ethereum, je suis pas sûr que l'approbation de l'ETF soit un catalyseur, va nous permettre de résoudre des problématiques techniques sur le protocole Ethereum, va nous permettre de résoudre des problématiques de scalabilité. C'est pas directement lié. Là où il y aura un effet, en tout cas à court moyen terme, c'est effectivement si on suit ce qui s'est passé sur Bitcoin et qu'il y a une approbation de l'ETF Ether, bah ça va amener de la liquidité, ça va potentiellement bénéficier à son cours, et à ce moment-là, ça fera plus de liquidité aussi pour développer le protocole. Donc ça peut avoir un impact sous ce sens-là, mais en tout cas, l'avenir n'est pas potentiellement moins radieux pour Ethereum si on n'a pas cette ETF.
Alors l'un de nos auditeurs rebondit d'ailleurs, il s'appelle Max, il nous suit sur les réseaux sociaux de BFM Crypto et nous a écrit cette semaine, il nous entend parler effectivement régulièrement d'Ether, valeur mobilière, pas valeur mobilière, c'est quoi la différence? C'est sa question, la différence entre une valeur mobilière, security et une commodity, Claire.
Oui, alors c'est vrai que c'est deux termes en plus de, voilà, anglais, donc on utilise beaucoup. Alors pour faire simple, une commodity c'est une marchandise ou une matière première. Par exemple, le pétrole, l'or, le blé sont des commodities. Une security, c'est un titre financier. Donc, par exemple, des actions, des obligations, des parts de fonds. Et donc, quand vous achetez une commodity, une marchandise, vous vous exposez à un actif qui est tangible et dont la valeur réside dans l'utilité et la rareté. Donc, Vincent le disait tout à l'heure, Bitcoin a été classifié comme commodity, donc marchandise aux États-Unis. La classification de titres financiers ou securities ou valeurs mobilières, tout ça c'est la même chose, elle concerne potentiellement d'autres cryptos. Il y a eu par exemple le procès de Ripple où le grand débat c'était de savoir si le XRP était un titre financier ou non. Et pourquoi c'est important dans la crypto? Parce que si votre crypto est qualifié comme une securities, comme un titre financier, vous avez beaucoup plus d'obligations. Par exemple, les émetteurs de titres financiers doivent faire plus de reporting et doivent divulguer beaucoup plus de choses sur l'état financier de leur société. Ils doivent faire des audits, par exemple, ils doivent être beaucoup plus transparents. Et donc, il y a des exigences réglementaires beaucoup plus fortes quand vous êtes un titre financier. Ce qui fait que certaines plateformes d'échange, par exemple, pourraient choisir de ne pas lister certaines cryptos si elles sont classifiées comme securities.
Bon, on va suivre tout ça et c'est pas encore perdu. Hein. On suivra l'avis de la SEC aussi. Quant aux ETF et Ethereum, toujours pas d'avis officiel. Les spéculations vont bon train. On va rester dans cet univers de la SEC en tout cas et ses décisions. Là, c'est un morceau de finance décentralisée qui entre dans son collimateur. La SEC a lancé cette semaine un avertissement à Uniswap. Pourquoi Uniswap et quels impacts ça pourrait avoir?
Ouais. Alors c'est pas une surprise parce que on sait que globalement la SEC est entrée dans cette croisade et la finance décentralisée était largement discutée et on savait qu'il allait avoir des débats réglementaires qui allaient se poser sur ces sujets-là. Alors pourquoi Uniswap? Parce que Uniswap a fait le choix de rester aux États-Unis, d'être identifié, d'être connu. Donc on sait à qui s'adresser finalement si on veut s'adresser à eux. Et d'ailleurs c'était une position qui était affirmée puisqu'ils avaient dit s'il faudra se défendre à un moment donné, ils savent où nous trouver et on sera prêt à prendre la parole. Alors là, c'est une notification qui a des chances de découler en action en justice. On n'a pas encore le pourquoi du comment, mais ça rejoint en fait un petit peu ce qu'on a dit. Ce qui va leur être reproché, c'est potentiellement le fait d'avoir proposé des titres sur une plateforme qui n'était pas régulée, de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait d'un point de vue légal pour s'enregistrer et pour mettre ça entre les mains de l'investisseur final. Eux, ce qu'ils défendent, c'est nous, on est une plateforme technique, on fait des lignes de code, donc en fait, on n'est pas censé être régulé de la même manière. Et donc là, l'écosystème s'est un petit peu soulevé. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont pris la parole et qui se sont rangés du côté d'Uniswap en accusant surtout la SEC de pas jouer franc jeu dans le sens où il manque de clarté réglementaire. Et derrière, ils reprochent ça en fait après aux acteurs. Donc de l'autre côté, la SEC dit non, les règles sont très claires et vous voulez un traitement spécifique et vous l'aurez pas. Donc on est un petit peu dans un discours de sourds. Mais en tout cas, l'écosystème est largement derrière Uniswap. Uniswap, c'est pas caché, ils ont réagi tout de suite et ils ont dit qu'ils seraient prêts à aller en justice s'il fallait aller en justice. Donc c'est un sujet qui est hyper important quand même parce que la DeFi, c'est plus que c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est quand même il y a quand même des volumes financiers qui sont importants et forcément la direction que va prendre cette affaire va nous donner des indicateurs sur comment potentiellement ce secteur va se développer à l'avenir. Donc il va falloir être attentif à comment ça se passe, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas quelque chose qui va se régler en quelques semaines, ça va prendre beaucoup de temps.
Les pros des cryptos, votre machine à condenser le temps, toute la semaine crypto en 25 minutes, et puis de la pédagogie aussi. On entre dans la période de déclaration des revenus. C'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui claque sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Crypto notamment. Thibaut et Claire, êtes-vous prêts?
Nous sommes prêts.
Voici la question. On entre donc dans la période de déclaration des revenus. Chaque citoyen doit payer son dû. Pour vous, déclarer chaque revenu issu des cryptos est un devoir, première option. Un casse-tête, deuxième option. Impossible, techniquement impossible de tout déclarer dans les cryptos. Troisième option. Telle est la question crypto qui claque cette semaine. Je vous laisse un instant, Claire, Thibault, pour réfléchir à votre réponse. Thibaut.
Alors plus qu'un devoir, je dirais moi déjà une obligation, et après un casse-tête quand même aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué pour nous, peut-être un peu plus simple parce qu'on a le nez dedans tout le temps, donc on sait globalement comment ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est quand même pas évident.
Déclarer chaque revenu issu des cryptos, un devoir, un casse-tête ou impossible techniquement? Claire.
Un casse-tête.
Vous aussi, chez vous, vous avez sans doute une idée claire sur le sujet, un avis tranché, aussi tranché que nos pros. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux BFM Crypto et à laisser vos arguments en commentaire, on rebondit dessus chaque semaine. Hey, un casse-tête que de déclarer ses revenus ici des cryptos alors que la déclaration arrive? Vraiment un casse-tête, même pour vous, vous êtes une pro des cryptos, Claire, même pour vous?
Non, alors évidemment, ça dépend de combien de transactions vous avez fait et ça dépend aussi du temps que vous pouvez y passer. Mais pourquoi je dis un casse-tête? Parce qu'il y a beaucoup d'informations fausses aussi qui circulent là-dessus. Alors j'ai fait un petit test tout à l'heure avant de rentrer en plateau. J'ai été voir les différentes intelligences artificielles, ChatGPT, Gemini, etc. Et j'ai été voir ce qu'ils racontaient sur la fiscalité crypto en France. Et en fait, même quand on parle avec les intelligences artificielles, il y a beaucoup d'inexactitudes sur les faits générateurs d'impôts. Je donne un exemple. Alors, quand vous êtes un particulier, grosso modo, vous êtes soumis à la flat tax, donc au prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les plus-values que vous réalisez en crypto. Sauf que ces plus-values, elles sont calculées sur les faits générateurs d'impôts qui sont de deux types. D'une part, quand vous vendez des cryptos contre de l'euro, contre une monnaie classique, mais aussi quand vous achetez des biens ou des services en crypto. Et ça, souvent, il y a une sorte de malentendu là-dessus. La plupart des gens se disent « Oui, mais en fait, ce qui est imposé, c'est la conversion en euros. C'est parce que quand j'achète un bien ou un service, en fait, ma carte bleue, elle convertit en euros derrière. » Mais pas du tout. Même si le marchand accepte de la crypto, il y a un fait générateur d'impôts. Vous devez calculer une plus-value lorsque vous achetez, je sais pas, un ordinateur, par exemple, ou une voiture en crypto-monnaie. Et ça, d'ailleurs, c'est assez problématique pour l'usage des cryptos comme moyen de paiement parce que ça... Voilà, ça génère un vrai casse-tête.
Oui. Angoisse aussi. Voilà.
Bien sûr, c'est-à-dire si vous avez acheté ne serait-ce qu'une dizaine de produits ou de services dans l'année en crypto, ça veut dire que sur chaque transaction que vous avez faite, vous devez calculer votre plus-value, donc le cours du bitcoin, si c'était en bitcoin du jour, etc. Donc ça rend les choses quand même assez compliquées. Maintenant, voilà, évidemment, ça dépend du temps que vous avez, ça dépend si vous avez les moyens de vous payer un fiscaliste. J'encourage quand même tout le monde à se renseigner vraiment sur ce qu'il doit déclarer, à aller voir un fiscaliste si vous avez beaucoup de transactions effectuées, mais oui, ça peut être un casse-tête, quoi. Vous sortez un fichier Excel et puis vous devez faire tous vos calculs.
Effectivement, les gains en stacking aussi, on voit de plus en plus, on entend de plus en plus parler, Thibault, du stacking, on peut réaliser des gains, il y a du rendement, c'est le principe et c'est tout l'attrait du stacking. Est-ce que les gains en stacking doivent être déclarés?
Ouais, bah c'est effectivement tout le casse-tête, puisqu'en fait, quand le cadre a été posé au départ, ils avaient imaginé un cadre qui soit le plus simple possible. Et à ce moment-là, le stacking était une activité qui était peu développée, donc on l'avait un peu mis de côté quand on avait posé les premiers textes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un cadre qui est pas hyper adapté à cette activité-là. Donc aujourd'hui, la bonne pratique, elle dit quoi? Elle dit que, comme pour le mining, en fait, qui a la même interprétation, c'est qu'on considère les revenus du stacking comme des bénéfices non commerciaux du BNC. Et donc, qu'à ce titre-là, on est soumis aussi à la flat tax. Et la bonne pratique, à moins qu'on ait enregistré à chaque fois ces revenus de stacking quand ils tombent, mais ça aujourd'hui c'est quand même relativement complexe, voire impossible. Mmh. Et donc on considère que les rewards, les bénéfices liés au stacking sont des crypto-monnaies acquises à zéro, et donc on considère une imposition à 30% sur ces rewards qui sont générés. Mais voilà, les textes vont évoluer à ce niveau-là. Normalement, cette année, on devrait avoir plus de clarifications pour les déclarations de l'année prochaine.
Et est-ce que, par exemple, c'est une technique courante que de stabiliser des gains en crypto en convertissant, je sais pas, ce que j'ai pu gagner grâce au Bitcoin, à l'Ether ou à d'autres cryptos, en stablecoin, stabiliser un peu mes gains? Est-ce que l'argent crypto converti en stablecoin risque de devoir un jour être déclaré? Est-ce qu'il va falloir le déclarer? Est-ce que c'est déjà prévu? Enfin, là-dessus, est-ce qu'on a de la visibilité?
Alors aujourd'hui, ce n'est pas un fait générateur d'impôts puisque les stablecoins sont considérés comme des actifs numériques et donc quand vous restez en crypto, en fait.
Donc même si le stablecoin est adossé à l'euro, au dollar, on reste en stablecoin.
Enfin, d'ailleurs, c'est ce que font la plupart des gens, hein, quand on fait du trading. Évidemment, on ne repasse pas en euros sur son compte bancaire, on reste en stablecoin. C'est beaucoup plus pratique et puis ça évite de l'impôt. Maintenant, le régulateur n'est pas stupide et a bien compris ce qui se passait, et donc forcément on peut s'attendre à ce qu'un jour les transferts de crypto en stablecoin soient un fait générateur d'impôts. Mais c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut imaginer, parce que aujourd'hui il n'y a pas d'impôts parce que les stablecoins sont considérés comme un actif numérique. Et donc si on veut mettre de l'impôt, ça veut dire qu'il faut trouver une sorte de classification pour les stablecoins, ou alors on commence à dire que c'est de la monnaie. Mais là, ça pose d'autres problèmes, parce que si on commence à dire que certains actifs numériques sont de la monnaie et pas d'autres, voilà, ça crée des débats réglementaires comme ça qui peuvent être sans fin.
Non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, il y a certains pays, chez nos voisins européens notamment, où c'est déjà plus le cas, où en fait la transaction en stablecoin est chroniquement imposée. Mais effectivement, ça... Il faudrait revoir le statut du stablecoin, et ça, c'est un autre débat encore plus complexe.
Effectivement. Les pros des cryptos, alors, c'est sur BFM Business, le vendredi en direct, rediffusion à 21h30, et puis aussi notre chaîne YouTube BFM Crypto, vous pouvez vous y abonner. L'Europe, quel numéro de téléphone pour appeler l'Europe? Vous connaissez l'adage, l'Europe, quel numéro? Et Binance, quelle adresse? Binance peine toujours à choisir une juridiction pour y établir son siège social. Pourquoi Binance, d'abord, a-t-il intérêt quand même à un moment ou à un autre à déterminer un siège social, et pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à en trouver un, ou pourquoi c'est si compliqué de le communiquer là? Pourquoi il y a un souci Binance sur cette question du siège international, Thibault?
Ouais, on en reparle là parce que donc le nouveau PDG qui a pris la succession de Sisi en a reparlé. Donc Sisi s'amusait quand on lui posait cette question à répondre en fait, notre siège social, c'est l'adresse, c'est partout, parce qu'on est partout, on est une société internationale, on est une société décentralisée. Il s'amusait à dire ça, et voilà. Et donc là, Richard Teng, qui se veut de mettre un petit peu de l'ordre dans la structure, a signalé que voilà, ils étaient en train de regarder pour avoir un siège social. C'était une manière aussi de montrer la volonté finalement de montrer un petit peu plus patte blanche et une volonté de faire les choses bien, ou en tout cas de les faire mieux. On n'a pas beaucoup plus de précisions. Il a dit qu'il discutait avec beaucoup de pays, avec beaucoup de régulateurs, que c'était assez compliqué parce que leur cas est un petit peu particulier, donc c'est difficile de trouver le bon équilibre. Mais en tout cas, on risque d'avoir des réponses assez vite sur ces sujets.
C'est encore un groupe solide, Binance, Claire?
Solide financièrement. Alors c'est dur de répondre à cette question parce que on voit, quand on regarde les utilisateurs, on voit que Binance va plutôt bien finalement. Même si aux États-Unis ils ont eu des grosses difficultés, leurs parts de marché ont largement baissé. Au niveau mondial, même si leurs parts de marché ont un peu baissé, on voit que c'est quand même une plateforme qui est plébiscitée par ses utilisateurs.
Ça reste le leader mondial, c'est toujours Binance.
Oui, oui. Et puis en France, par exemple, dans l'étude KPMG Ipsos menée pour l'ADAN qui a eu lieu le mois dernier, on voit que Binance, c'est la première plateforme utilisée par les Français. Donc oui, c'est encore le leader. Maintenant, si on veut parler de solidité, ce qu'il faudrait aller regarder, c'est les états financiers du groupe au global. Alors, Binance France avait publié des états financiers l'année dernière, mais Binance France, c'est évidemment tout petit par rapport à Binance dans le monde. Donc, il faudrait avoir une transparence financière beaucoup plus grande pour pouvoir se prononcer sur la solidité du groupe.
Et Sisi, l'ancien patron de Binance, il devient quoi? On n'en parle plus, mais il devient quoi? On a des nouvelles de lui ou pas?
Oui, bah, il continue à être actif sur Twitter. Il a annoncé le lancement de son nouveau projet Jingle Atami, sur lequel pour l'instant il n'a pas parlé de Web3. C'est une plateforme d'éducation gamifiée à destination des zones défavorisées. Donc il avance. Il a dit qu'ils étaient déjà 10 sur le projet, qu'ils continuent à recruter des gens. Donc voilà, il va certainement donner des nouvelles et je pense qu'il nous mettra une brique Web3 à un moment donné. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien se passer pour lui.
Oui, sur le front judiciaire, on n'a pas de.
Bah, on n'a pas beaucoup plus de nouvelles. Hein. Globalement, ouais, il risque encore gros, mais pour l'instant, on n'a pas en tout cas de nouvelles qui sont tangibles, quoi.
On va continuer dans cette thématique judiciaire d'ailleurs avec Dokwon, l'ancien PDG de Terra. Alors il est toujours au Monténégro, Dokwon, mais ça y est, il a été jugé ces derniers jours par les États-Unis. Il a été jugé par les États-Unis alors qu'il est toujours ici en Europe, au Monténégro. Comment c'est possible ça, Claire?
C'est possible parce qu'il y a plusieurs pays qui se disputent Dokwon, notamment les États-Unis et la Corée du Sud.
Imagine la scène, là. Non, il y a moi.
Tout le monde veut le juger parce que, évidemment, il y a plein de gens qui ont été victimes de Terra Luna. Et donc, il y a plein de pays qui veulent juger Dokwon parce que leurs ressortissants à eux, les citoyens de ces pays-là, sont concernés. Donc les États-Unis ont fini par s'impatienter et ont dit nous on va le juger tout de suite, même s'il est au Monténégro. Et donc il a été reconnu coupable de fraude, en gros d'avoir induit en erreur des investisseurs et d'avoir fait une émission de securities, les fameux titres financiers non enregistrés. Donc il a été reconnu coupable aux États-Unis, mais il est toujours au Monténégro, donc la bataille juridique continue. On va voir s'il va être extradé aux États-Unis ou non. Mais globalement, ce que ça montre, c'est que les États-Unis ont vraiment envie d'avancer sur toutes ces affaires. On l'a vu avec SBF, on le voit là avec Dokwon. Ils veulent épurer un peu le marché des fraudes.
En tout cas, justement, on sera d'accord pour dire que l'écosystème peut encore gagner en sécurité et en fiabilité. On a d'ailleurs appris cette semaine la création d'une ligue de la sécurité du Web3. Ligue à laquelle Vivendi, qui ne fait d'ailleurs pas partie de cet écosystème du Web3, va participer. Qu'est-ce qu'on doit en penser d'ailleurs de cette ligue et puis de la présence de Vivendi?
Alors, Vivendi, effectivement, ne fait pas partie de l'écosystème directement. Par contre, la personne qui pilote ça chez Vivendi, enfin, ils sont plusieurs, mais il y a notamment Fabien Offrechter qui est un ancien de cet écosystème. C'est-à-dire que ça, il gravite dans cet écosystème depuis de nombreuses années.
Et il est chez Vivendi maintenant, c'est ça?
Il est chez Vivendi depuis bien avant que moi, je sois même dans cet écosystème. Donc, ça fait longtemps qu'il est là, Fabien. Il a beaucoup œuvré en coulisses. Et donc, il fait ça avec Sébastien Martin. Globalement, c'est une super bonne initiative. C'était une brique un petit peu qui manquait à notre puzzle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils impliquent aussi d'autres acteurs justement qui sont pas forcément Web3 et qui amènent une vision différente, une culture différente, une structuration différente. Donc c'est plutôt une initiative à saluer. Maintenant, va falloir voir sur le terrain ce que ça donne concrètement, mais plutôt très favorable à l'initiative en tout cas.
La capitale mondiale des cryptos, où est-elle? C'est pas New York, c'est pas Londres, c'est pas Shanghai, c'est pas Hong Kong. La capitale mondiale des cryptos, c'est nous, c'est ici. Ici, c'est Paris. Eh oui! La Paris Blockchain Week a battu son plein cette semaine. Il y avait les stars mondiales de l'écosystème présentes, réunies ici. Claire et Thibault aussi, vous y étiez. Quel bilan! Déjà, est-ce que la fréquentation, le pédigré des intervenants peuvent effectivement nous amener à penser que Paris, s'il fallait choisir une seule capitale mondiale des cryptos, Paris serait cette capitale? Thibault.
Oh oui. une des capitales mondiales peut-être, en une grosse place en Europe, oui, mais voilà, il y avait du beau monde.
Ça vous fait mal, hein, vous venez de Metz, de Moselle, ça vous fait mal de dire que c'est à Paris que ça se passe.
Non,
ici c'est Paris. Ici c'est Paris.
Ben, mercredi, c'était pas comme ça.
Vous allez faire des ennemis là dans la
communauté. J'étais au stade, j'en ai souffert également. Plus sérieusement, effectivement, une grosse place en Europe, et d'ailleurs, on s'y trompe pas, hein, tous les plus gros acteurs internationaux étaient là, notamment les exchanges. Après, voilà, Paris n'est pas la seule. La semaine prochaine, il y a un gros événement également à Dubaï, il y aura beaucoup d'acteurs. En septembre, il y en a à Singapour, il y aura également tous les acteurs qui seront là. C'est aussi important pour eux d'être présents et de montrer leur présence internationale, mais effectivement, beaucoup de stars, beaucoup de grands noms qui étaient là, et on voit que le marché reprend des couleurs, beaucoup d'enthousiasme aussi,
ah oui,
beaucoup de stands, un petit peu plus de monde que l'année dernière, donc ça se ressent aussi très clairement.
Mais c'était pour venir vous voir aussi, Thibaut.
Évidemment.
Bien sûr.
Évidemment.
Et les thèmes, on sent de nouvelles thématiques monter en puissance là ou pas ?
Pas forcément, non. D'ailleurs, moins de projets blockchain. Je m'attendais à plus de projets blockchain, mais sinon, dans l'ensemble, c'est la Paris Blockchain Week est quand même un événement qui est plutôt corporate et plutôt politique. Donc, force, c'est un peu logique qu'on voit un petit peu moins de tech.
Nos pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Thibaut Boutrou, merci beaucoup, Thibaut. Meria, régulièrement à nos côtés. Claire Balva pour Deux Blocs. Vous avez levé cette semaine 12 millions d'euros, Claire.
Ça, on a annoncé notre levée de 12 millions et surtout notre lancement sur les App Store.
Effectivement, et vous êtes d'ailleurs venu en parler dans la matinale de BFM Business, dans Good Morning Business, avec Christophe Jacubizine, chacun pour trouver le replay, l'intervention de Claire pour expliquer les ambitions de Deux Blocs. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, les pros des cryptos, chaque vendredi. Bon week-end.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.